France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans Itinéraire d'un cinéphile, Serge Danet le disait sans embâge à Régis Debray. J'ai un amour des cartes postales qui ne s'est jamais démenti. J'en ai envoyé des tonnes à tout le monde pendant toute ma vie et la carte postale, c'est mon vrai rapport à l'image. Pour des raisons encore plus profondes, encore plus enfouies que le cinéma. Je trouvais que le cinéma, c'était très basique, très populaire. La carte postale, c'est encore plus bas. C'est dans des présentoirs et tout le monde les envoie et écrit derrière. Et on peut écrire des cartes postales en langage très codé. On peut écrire des poèmes, on peut écrire des trucs d'amour. Suffit de l'écrire d'une façon telle que même ceux qui la liront ne la comprennent pas. Mais les collectionneurs de cartes postales sont-ils eux aussi, comme l'était Serge Danet, de grands rédacteurs, de grands pourvoyeurs de cartes postales? Peut-être pas. Alors que font-ils ces collectionneurs? Que cherchent-ils en les accumulant ainsi? C'était en 1995 ce que proposait de découvrir le numéro de L'Échappée belle que nous allons entendre. Une émission dans laquelle des cartophiles en tout genre levaient le voile sur la passion qui, par exemple, avait poussé celui-là à se spécialiser dans la carte postale fantaisie et celui-ci à se fixer sur la carte postale de prison et de bagne, puisqu'en matière de carte postale, comme en bien d'autres domaines, les goûts et les couleurs ne sauraient être discutés. L'Échappée belle, les univers de la carte postale, une émission proposée par Thierry Aveline, diffusée la première fois le 5 mai 1995 sur France Culture. Réalisation, Marie-André Arminot.
La carte postale se différencie de la lettre car elle n'est pas cachetée. Elle navigue au grand jour. Elle est, comme le définit le philosophe Jacques Derrida, une lettre ouverte où le secret paraît, mais indéchiffrable. Secret décryptable par l'expéditeur et son destinataire uniquement. La carte postale, c'est une relation où se côtoient le visible et l'invisible, où l'on passe à travers le miroir, comme chez Lewis Carroll ou Jean Cocteau, comme Alice au Pays des Merveilles ou l'ange Hortebise dans le film Orphée. Jean Baudrillard dit que le collectionneur est maître d'un sérail secret. Alors qui sont les cartophiles? Quelle quête, quelle passion les mène? Quelle motivation se dissimule derrière toutes ces images qu'ils rassemblent?
Pour moi, la carte postale, c'est un hobby. Bon, c'est quelque chose qui m'a apporté énormément dans ma vie parce que ça me permet de réaliser un vieux rêve d'enfant où je voulais voyager, où j'aimais beaucoup l'histoire et la géographie. C'était mes parties fortes quand j'étais gamin. Et en fait, la vie vous prend au quotidien. Vous vivez 25, 30, 30, 40 ans, puis vous apercevez au bout du compte que vous n'avez pas réalisé ce que vous vouliez peut-être faire. Et la carte postale a été pour moi la façon d'aborder et de réaliser mon rêve d'enfant.
Là, vous avez la pièce carte postale, avec toutes celles qui sont en album. Et puis là, vous avez toutes celles qui sont placées en boîte. Moi, j'ai commencé à collectionner, j'avais 15 ans. Alors, ça fait plus de 50 ans, ouais. C'est pas d'aujourd'hui. Ouais. J'avais tous mes amis qui étaient à Paris, tous mes copains d'école et après d'adolescence, étaient tous des fils de libraires ou d'antiquaires. Et à 15 ans, j'allais déjà chiner avec eux et j'ai monté mes premières collections, qui étaient la gravure et la lithographie à l'époque.
Ce sont vos premiers thèmes de prédilection?
Premier thème de prédilection, c'était les disques et les phonographes. Et ensuite, pour illustrer ma collection de disques et de phonographes, j'allais illustrer par la carte postale, avec tous les chanteurs, les chanteuses et les personnages qui ont enregistré. Mais je suis devenu marchand parce que j'avais des quantités de doubles dont je ne savais pas quoi faire à l'époque. Et j'ai commencé comme marchand dans une petite baraque en planches, rue des Montibus, dans le 20e arrondissement. On traverse un petit couloir, entrait dans une cour. De là, on passait On descendait un escalier où j'avais fait mettre la lumière parce qu'on passait à travers les caves. Et de l'autre côté des caves, il y avait un jardin et une baraque en planche avec des tôles dessus que j'avais à l'époque repris pour une somme ridicule. Et ça a été mon premier magasin, mais c'était formidable parce que l'été, on sortait des tables dehors et il y avait des rosiers et tout. Les gens choisissaient leur carte postale au milieu des fleurs.
François Robichon.
L'immense majorité des collectionneurs, d'ailleurs on le voit bien dans le classement que font les marchands, cherchent des lieux. C'est vrai que de ce point de vue-là, la carte postale souvent enregistrait des endroits disparus, et puis des endroits assez modestes. Il y a évidemment tous les monuments, mais aussi des petites maisons, des boutiques, etc. Il y a aussi tous les vieux métiers de Paris et d'ailleurs. Donc là, je dirais pour le folklore, pour l'ethnographie, etc., et pour l'histoire de l'architecture, de l'urbanisme, c'est une mine formidable, la carte postale. À travers la carte postale, on peut récupérer une iconographie qui souvent est dispersée ou perdue. Enfin, il y a des collectionneurs des cartes qu'on pourrait qualifier de précieuses, qui effectivement des petites séries qui ont été faites par des artistes aujourd'hui célèbres, et qui ont une cote très élevée maintenant, et qui sont très, très belles graphiquement, qui sont conservées un petit peu maintenant comme des petits objets d'art, puisqu'il y a certaines cartes postales maintenant qui valent plusieurs dizaines de milliers de francs. Quand on a créé la carte postale, en gros après 1870, c'était clairement dans l'esprit des créateurs de l'époque pour promouvoir une forme de correspondance simplifiée, rapide, un petit peu comme le monde moderne industriel qui naissait. Donc la carte postale illustrée était dans cette mouvance, dans cette dynamique. Simplement, l'image sert de relais ou d'appui, d'appoint, de complément à cette correspondance.
La première vraiment carte postale illustrée, c'est la Tour Eiffel de l'exposition de 1889. Et ensuite, il y a eu quelques cartes postales à partir de 93, 94, 95, mais qui étaient des cartes postales lithographiées. Et par la suite, les premières cartes postales photographiques sont venues à partir de 1899-1900. Ça a été la grande période de la carte postale entre 1900 et 1914. Mmh. À l'époque, il y avait le syndicat des dessinateurs de presse qui se sont opposés pendant des années à ce que la photo passe dans la presse. Et donc, les gens se sont rués sur la carte postale entre 1900 et 1914 pour avoir les événements en carte postale. Par exemple, pour la bande à Bonneau, le lendemain même de la mort de Bonneau, quand il a été tué pour son arrestation, le lendemain même, il y a des cartes qui existent avec l'oblitération du lendemain. C'est-à-dire que la photo a été prise le jour même. On donnait les cartes à imprimer dans la nuit et le lendemain, elles étaient déjà vendues. On a tout fait en carte postale à cette époque-là. Tous les grands événements, l'affaire Dreyfus, l'exposition 1900, tout a été fait en carte postale. Même dans les petits villages, quand il y avait un petit événement, un carnaval, une fête, on faisait une série de 10 cartes postales. Une inauguration, on faisait des cartes postales.
En gros, il y a deux types de cartes. Il y a la carte paysage touristique qui a couvert la France dans son intégralité avec toutes les mairies, les sous-préfectures, les églises, les monuments aux morts, etc. Donc c'est une sorte de répertoire photographique par la carte illustrée qui fait le bonheur actuel des collectionneurs. Et puis la carte fantasy, dont un sous-genre était la carte illustrée par Mucha et quelques autres. Alors, les types de correspondances s'adaptent à ces deux types d'images. Avec la carte géographique, on a le thème Coucou, on est là, hein, qui reste toujours d'ailleurs très vivant aujourd'hui, où les gens font même encore une croix sur la chambre, la fenêtre de l'hôtel où ils se trouvent. Bon, la carte signifiant effectivement a priori que les gens sont à l'endroit représenté sur la carte, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs. Et puis la carte fantaisie, qui recouvre des quantités de sous-genres, elle est finalement plus subtile et plus compliquée, parce qu'on peut toujours supposer que les gens l'ont achetée intentionnellement, ou parce que Lacan appellerait plutôt l'inconscience, c'est-à-dire qu'on a cru, mais est-ce qu'il n'y a pas du discours autre qui s'est glissé là, et qui fait quand même que... on arrive parfois à des choses assez paradoxales ou troublantes, y compris au niveau du désir. Par exemple, il y avait cette correspondance d'un monsieur qui écrit à un autre monsieur à travers une série de cartes fantaisie. Il y en a 6, ce qui est déjà en soi assez rare. Et donc, ces 6 cartes représentent une petite scénette tout à fait dans le goût de l'époque, ancien régime. On voit un beau jeune homme en train de faire la cour à une soubrette. Et ce monsieur, effectivement, qui écrit à un autre monsieur, qui est d'ailleurs infirmier à l'hôpital militaire de Nice, des petits mots qu'on peut penser, des petits mots doux, d'une façon comme ça, très, très, très détournée. Les cartes sont oblitérées successivement, donc elles n'ont pas été envoyées dans une enveloppe en groupe. Donc ce monsieur a envoyé à cet autre monsieur 6 cartes, les unes derrière les autres, comme ça, le même jour, et avec, comme sur chaque carte, un petit mot. Donc on peut quand même penser que le vrai discours, c'est celui qui est sur l'image.
Et pas le petit mot.
Et pas le petit mot.
Le petit mot.
Mais le petit mot, c'est à bientôt. Oui. C'est des choses complètement banales. Merci de votre attention. Salut de toute la famille. Bon, oui. Des choses qui vraiment...
Alors finalement...
À quand une permission, là?
Et le discours, alors... que l'on peut analyser sur le
coucou, coucou, qui sait, je le devine, c'était Monod Catherine, ça c'est la soubrette. Dites-moi, vaillant militaire, en quoi puis-je vous satisfaire? Je vous rappelle qu'il écrit un militaire.
Oui.
Donc, je voudrais, Balmariton, venir et je ne sais plus envoyer mon tricorne, et que ta lèvre ensuite frôle la blonde chair de ton épaule, laisse encore voir en ton corsage si tes tétons font bon ménage, et à présent viens quand tu voudras jaser d'amour entre mes bras.
Mais la carte postale, c'est un petit roman, une carte postale. Finalement, c'est une petite chanson. Un petit monde en soi, et qui éveille notre monde intérieur.
C'est la comédienne Odette Laure, qui a eu autrefois une collection de cartes postales en dilettante, mais qui en a gardé un souvenir ému, et qui ouvre donc pour nous maintenant la porte vers la rencontre avec les protagonistes de cette échappée, les cartophiles, les collectionneurs et leurs univers. Car on peut bien parler d'univers au pluriel à propos de la carte postale. Plongée dans ces rectangles de carton, ces photographies plus ou moins anciennes, c'est une aspiration. Et pour cette échappée belge, je me suis trouvé moi-même entraîné dans une spirale et à travers un jeu de miroir vers une sortie du temps qui m'a projeté dans des univers surprenants et insoupçonnés. Ce sont ces univers que je vous livre. Un kaléidoscope d'images et de sujets, une mosaïque de thèmes dont le régionalisme et les coutumes d'hier, une incursion en Corse, en Italie, les bagnes de la Nouvelle-Calédonie, les confitures, le music-hall, le judaïsme. Enfin, une drôle de balade, avec la complicité donc de ces collectionneurs et marchands comme André Fildier, que nous avons déjà écouté, et Jean-Luc Bonifacio, l'un des négociants les plus importants de cartes étrangères, mais qui, comme nombre de ses confrères, a débuté en réunissant sa propre collection.
Ayant, depuis mon plus jeune âge, commencé à collectionner les timbres, j'ai été amené en 1981 à retourner des cartes postales sur lesquelles il pouvait y avoir des oblitérations, et je me suis aperçu que ce petit bout de carton était tout à fait passionnant dans l'autre sens, dans la mesure où il nous apportait une mémoire de ce qu'avaient pu être nos régions ou certains pays au début du siècle, Et je me suis mis à collectionner la carte postale afin de faire des recherches, notamment sur la Corse, puisque je suis d'origine corse, et ensuite sur l'Italie, parce que ma femme étant d'origine italienne, il m'intéressait de voir comment avaient pu évoluer toutes ces petites villes qui étaient devenues des grandes villes, tous ces petits villages qui étaient devenus des agglomérations importantes. En fait, d'essayer de réaliser des monographies de lieux qui permettaient de déceler au travers des documents les évolutions urbanistiques, les évolutions des costumes et tout ce qui était en quelque sorte la vie de cette époque. Ensuite, au bout de 5 ans, j'ai décidé de faire de ce qui était ma passion mon métier. Et de là, je me suis penché vers la carte postale étrangère dans la mesure où j'étais amené à connaître précédemment beaucoup de collectionneurs de cartes étrangères. M'étant marié dans une petite ville à côté de Naples qui s'appelle Avellino, et le choix d'une collection sur Avellino étant trop restreint, parce que naturellement c'est une collection de type régional, j'ai été amené à progresser davantage sur la ville de Naples, pour laquelle vous avez eu une production de cartes postales anciennes excessivement importante, naturellement. Je me suis surtout attaché à récupérer mes cartes, si vous voulez, qui ne sont pas touristiques, et qui vous amènent à avoir une vision plus réelle de cette ville. Trouver des métiers qui ont disparu, par exemple des laitiers en pleine ville, c'est-à-dire la personne qui vient avec sa vache et puis qui commence à traire, si vous voulez, sa vache et qui vend le lait fraîchement trait avec des gens qui s'agroupent tout autour. Par exemple, sur la ville de Bastia, il y a une carte qui est très très intéressante, qui est très rare et qui concerne ce que l'on appelle la cueillette des pierres. Il s'agit d'un gros plan de femmes âgées qui sont sur la place Saint-Nicolas et qui sont en train de ramasser les pierres afin de pouvoir payer leurs taxes. En ce qui concerne la ville de Naples, vous aviez les Napolitains qui montaient vers la ville d'Avellino, qui est distante de 40 km, avec des voitures qui emmenaient les gens prendre le frais à la montagne, puisqu'Avellino se situe un peu plus dans la montagne, dans l'intérieur. C'était une véritable expédition et qui mettait au moins 3 heures pour rejoindre cette ville d'Avellino au travers du taxi de l'époque, mais qui n'était pas en fait un taxi, qui était tout simplement une voiture de place et qui est très caractéristique également de cette époque.
Mit dem Schames Reb naftule und hat geschickt nach die Fiedlech die zwei.
C'est sur le stand de Jean-Luc Bonifacio, rendez-vous des cartophiles qui recherchent des cartes étrangères, au Carré Marigny, près des Champs-Élysées, l'un des marchés parisiens de la carte postale et du timbre, que j'ai rencontré Gérard Sylvain, qui a réuni une abondante collection qui comprend, il ne le sait exactement, entre 40 et 50 000 cartes traitant du judaïsme.
Je ne vais pas avoir beaucoup de mal, mais... Bon, mais alors je suis en train de fouiller dans la boîte que Jean-Luc Bonifacio a devant lui, et je cherche à savoir si j'ai ou si je n'ai pas les cartes qui sont dans cette boîte. J'ai sous les yeux une synagogue alsacienne de Niederhörden. Je l'ai, donc par conséquent, il n'est pas question que je la prenne. Là, ça c'est une carte de Safi au Maroc. Et vous avez une chose qui est très intéressante, c'est que le costume juif au Maroc était tellement évident que quand vous prenez une carte où il y a 50 personnes et un seul juif parmi les 50 personnes, vous le reconnaissez immédiatement. Les juifs étaient habillés en noir. Ils avaient un capuchon blanc qui devait être en principe rejeté sur l'épaule, laissant apparaître l'habit du dessous. La coiffure était une calotte qu'il portait en arrière, sur le sommet du crâne, mais en arrière. Et enfin, la dernière carte que je trouve dans cette boîte, c'est un commerçant de Seyfrou. Mais alors là, vous n'avez aucun doute sur l'origine de ce négociant, c'est que l'éditeur a bien noté en dessous de la carte, en légende, Sefrou au Maroc, qui n'est pas une très grande ville, un sympathique commerçant israélite. Donc là, vous avez le label de la judaïté du commerçant. On peut reconstituer à l'aide de cartes postales une certaine histoire d'un certain peuple juif, pour être très précis.
Par exemple, alors lorsque l'on parle de l'histoire du peuple juif, ce ne sont pas des photos, des représentations sur les cartes postales.
Évidemment, lorsqu'il s'agit de documents du XIe siècle, ce sont des dessins, des peintures, des reproductions photographiques de tableaux, etc. Plus nous nous rapprochons de la photo à proprement parler, et plus nous avons des documents photographiques.
Alors le voyage, on pourrait le faire en partant d'où ? À partir d'une carte postale. Si vous pensez à vos cartes postales, à votre collection, en nous emmenant comme cela d'un pays à un autre, peut-être pour arriver jusqu'au berceau du peuple juif.
En fait, il n'y a pas de voyage parce que... Comme il y a une diaspora, il est évident que tous les pays du monde, ou presque, ont eu une histoire juive. Donc par conséquent, on peut parler de voyage au pluriel du peuple juif. On peut même parler, à la limite, de voyage des ethnies juives.
Alors votre collection, elle est organisée comment ?
Toute la collection est classée thématiquement, d'abord. Et puis, ces thèmes sont classés bêtement, parce que c'est le classement le plus imbécile, mais c'est le seul qui soit vraiment efficace, par ordre alphabétique. Et à l'intérieur du thème, déjà lui classé par ordre alphabétique, les différentes composantes du thème sont classées par ordre alphabétique. Ça va de animaux jusqu'à zoos. Il y a des zoos dont les propriétaires étaient juifs ou dont certaines villes avaient des zoos avec des animaux à qui on avait donné des noms juifs. On avait par exemple donné le nom de Sarah, je crois, une éléphante, probablement à cause de sa longue trompe que l'on assimilait au nez bien connu. Bien. C'est très curieux parce qu'il y a deux choses dans le thème animaux. Il y a d'abord les noms. Vous savez qu'on a donné, les juifs n'ayant pas de noms, ou des noms spécifiquement juifs, à un moment donné de l'histoire, des pays, en France ou en Autriche par exemple, on a obligé les juifs à prendre des noms. Et il a fallu qu'ils trouvent donc des noms qui ne soient pas des noms spécifiquement juifs, donc des noms de lieux, du lieu où ils habitaient, des noms de métiers ou des noms d'animaux. Ce qui fait que vous avez, en France par exemple, vous avez des gens qui s'appellent Lyon et qui en fait sont des noms provenant d'animaux qui au départ étaient leuves, sont des noms en principe spécifiquement juifs. Donc ces cartes-là sont classées Hirsch par exemple. Ma grand-mère était une Hirsch, Hirsch voulant dire cerf, donnant cerf en français. Il y a des cerfs en France, ils sont pratiquement tous juifs, les Hirsch aussi. Et donc j'ai classé ces animaux, entre guillemets, soit par nom, soit par analogie, dans le thème animal.
Comment est-ce que vous procédez ? Vous la regardez, bon, c'est une carte postale que vous n'avez pas, alors vous l'offrez, vous l'achetez, vous l'intégrez dans votre collection, vous faites des découvertes, comment ça se passe ?
Je commence par travailler avec une loupe.
En me donnant un exemple peut-être.
Je commence avec une loupe. Par exemple, je vois une place ou une rue. Je prends ma loupe et je regarde s'il y a un nom, disons évocateur. Si le nom a une consonance allemande, je me pose la question de savoir si oui ou non je pourrais la mettre dans ma collection. S'il vend des chapeaux, il me dit il y a peut-être une chance sur... Vous voyez, c'est vraiment l'enquête policière. Bon, il est évident que, comme ce sont des cartes en général à petit prix, je la prends en me disant après tout, si c'est bon, tant mieux, si c'est pas bon, tant pis. Il faut pas faire une fixation là-dessus. Sur des cartes plus importantes, je travaille après, effectivement, avec une loupe pour voir si... en général, le thème est évident. Mais là où la difficulté commence, c'est quand le thème est multiforme. C'est-à-dire que quand il y a trois thèmes dans une carte, ou comment classer la carte ? Ça arrive. Prenons un exemple. J'ai une carte avec une synagogue. À côté, un très beau magasin. Ma synagogue, elle est moche. Le magasin est superbe. Et puis j'ai un type juif magnifique à côté. Où est-ce que je vais la placer ? Dans scènes et types juifs ? Dans synagogue ou dans magasin ? Problème. Alors, je suis obligé de me dire, voilà, la synagogue, je l'ai déjà en synagogue. Donc, éliminé. Le type juif, après tout, il y en a tellement. Bon, alors je mets le magasin. Voilà comment je procède. Dans un cas très précis. Mais ce genre d'interrogation, je me la pose souvent. Parce que c'est pas évident.
C'est un voyage dans la culture, dans l'imaginaire, dans le temps. Et est-ce que vous le rallongez d'un voyage sur les lieux ? Ça vous est déjà arrivé ?
Non, je vais vous faire un aveu, jamais. C'est très clair, jamais. D'abord parce que la carte fait rêver. Alors à partir du moment où vous êtes sur le lieu, vous ne rêvez plus. Le rêve, il tombe de lui-même. Et puis d'autre part, la carte, c'est la mémoire. Et que la carte juive, c'est la mémoire du peuple juif. Donc, pourquoi aller sur un lieu ? Je ne trouve pas évident qu'on retrouve... D'ailleurs, on ne retrouvera jamais, comme ce sont des cartes qui ont été éditées en général, entre 1894, disons. Là, elles sont très rares, celles-là. Mais disons, entre 1899, qui est la période où on commence vraiment à trouver de la carte intéressante, et spécifiquement juive, jusqu'à 1930. Quand vous allez sur les lieux, vous ne trouvez plus même 1930. Même 1930. Donc vous ne risquez qu'une chose, c'est d'être déçu. Alors rêvons.
Alors en fait, si vous voulez, bon, il y avait trois au début du siècle trois grands ports, Mauritius en France, vous aviez Saint-Malo qui était le premier, Fécamp qui était le deuxième et Granville qui était le troisième. Bon, il suffit d'aller dans ces villes, de faire des recherches et j'ai trouvé énormément de cartes postales sur la pêche à la morue. Si vous voulez, la carte postale pour le Terre-Neuve, c'est un véritable reportage. On voit le départ, les foules qui sont là, la bénédiction des bateaux, la montée des marins à bord,
Michel Hébert.
Les voiles qui sont hissées, le canot du pilote qui vient les chercher pour leur faire franchir les rochers qu'il peut y avoir le long de la côte, etc. Et puis, vous avez toutes les cartes postales montrant la pêche, la vente et le retour. Et puis les fiancés qui sont là, les femmes qui sont là. Et puis quelquefois, vous voyez un drapeau noir ou un drapeau blanc, ça dépendait au haut du mât. Et on savait que s'il y avait ce drapeau, c'est qu'il y avait des décès à bord. J'ai pu reconstituer toute la vie des Terre-Neuve au travers de la carte postale. Parce que les derniers Terre-Neuve à voile, le dernier, je crois que c'est 1949 à Saint-Malo. Donc en fait, les capitaines Terre-Neuve sont des gens qui maintenant ont tous entre 80 et 95 ans. Et puis, ces capitaines sont en train de disparaître. Donc par le canal de la carte postale, on peut arriver à reconstituer cette saga des Terre-Neuve.
Moi, si j'ai bien compris, vous allez quand même à la rencontre des personnages, ah oui. À la rencontre des lieux, à la oui. rencontre des gens. Oui, alors oui. Comment vous faites? Vous partez avec vos cartes postales sous le bras? Vous...
Non. Bon, au fur et à mesure, bon, j'écris énormément de livres illustrés par la carte postale. Donc je dédicace à droite et à gauche. Donc ça permet de connaître dans les librairies ou dans les grandes surfaces les gens qui viennent pour se faire dédicacer en ligne. Donc je discute avec les gens. Et puis bon, j'apprends qu'un tel a encore un cousin qui était capitaine. Et puis à Saint-Malo, je dois en voir un d'ailleurs prochainement. Il doit avoir dans les 90 ans ce monsieur. Je vais aller le voir parce que quelqu'un que j'ai rencontré par hasard, je ne connaissais pas, m'a dit, mais j'ai encore un parent qui est allé là-bas. Je me fais expliquer toute la technique. Bon, voilà, par exemple, un lot de cartes postales. Oui. Bon, vous choisissez ce que vous voulez dedans. Là, c'est la pêche à Terre-Neuve ou en Islande.
Hein. Ah ben là, on est carrément sur le bateau.
Alors là, on est sur le bateau et vous avez des marins et un petit mousse. C'est qu'on partait, on engageait des mousses à partir de 13 ans, qui avaient pour charge, en général, de faire toutes les corvées, ouais. De laver le pont, de faire la popote, ou d'aider à la popote, etc. Et vous voyez ici que la morue, elle, qui a été pêchée, cette carte postale-là, elle est presque aussi grande que le petit gosse. Ouais.
Alors, dites-moi, ce sont des photos au départ, ce qui veut dire que sur les bateaux partait un photographe.
Non, c'est pas comme ça que ça se passait. Il n'y avait pas de photographe, bien sûr, sur les bateaux. Bien, il faut savoir qu'en 1895, 95 et 97, il y a eu une association qui s'est créée, qui s'appelait l'Œuvre de mer, qui a été créée par des marins de la Royale et par la hiérarchie catholique. Elles avaient pour but, d'abord, de construire ou d'affréter un bateau. Et ce bateau, c'est un petit peu comme le bateau de la Royale, de la Marine. C'est pour aider et assister les marins là-bas, mais plutôt dans le domaine spirituel et dans le domaine de la santé. Parce que l'œuvre de mer envoyait un aumônier avec son bateau, mais également ce bateau faisait hôpital. Donc il visitait tous les lieux de pêche. Et quand il y avait des marins qui étaient malades ou atteints du scorbut ou qui étaient blessés, le navire hôpital de l'œuvre de mer le prenait à son bord et l'emmenait à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Terre-Neuve de façon à ce qu'il puisse être sauvé. Alors, il apportait également le courrier de France, cet bateau de l'œuvre de mer, et l'aumônier avait très souvent un appareil photo. Et c'était la grande joie de ces marins. Quand l'aumônier venait à bord, il y avait toujours une photo qui était prise par l'aumônier de l'œuvre de mer quand il venait avec son bateau pour réconforter moralement ou prendre des blessés.
Michel Hébert trouve son intérêt avant tout dans les cartes postales régionalistes. Et sa dernière passion, sa collection concernant Terre-Neuve et les Terre-Neuvas, l'a amené à produire un ouvrage qui n'est d'ailleurs pas le premier, car Michel Hébert, dans sa démarche, se plaît à tisser une toile autour d'un lieu, d'un village, d'un canton, à travers la carte postale, cerne son thème dans tous ses aspects, typographique, humain, sociologique, en réunissant la collection la plus complète possible, puis l'abandonne, l'ouvrage édité, pour un autre voyage, dans un autre thème. Une démarche de chercheur, presque d'ethnologue, qui s'apparente à celle de Gérard Sylvain, qui s'est raconté tout à l'heure, à cette différence près que Gérard Sylvain ne clôt pas sa collection. Il la nourrit sans cesse à la recherche de ses racines et de sa culture originelle, en analysant au plus haut point les iconographies qu'il découvre. Michel Hébert, Gérard Sylvain, en fin de compte, mènent une enquête à travers leur collection, tout comme Hubert Martinez, rencontré tout à fait par hasard au salon des vieux papiers, mais qui lui, et vous allez comprendre pourquoi, est enquêteur professionnel. Et sa collection prend source dans l'intérêt qu'il porte à son métier.
Travaillant au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, j'avais l'occasion de me promener au Carré Marigny, hein, près des Champs-Élysées, où se trouvent tous les marchands de cartes postales. Et c'est au hasard d'une promenade que j'ai découvert des cartes postales sur l'univers carcéral et sur les prisons, puis après sur les bagnes. Il y a des cartes postales qui représentent soit la prison de Fresnes, hein, ou la prison de la Santé. Donc je vais commencer au départ par ces thèmes-là, pour après me spécialiser et m'orienter vers les bagnes d'outre-mer. Si je prends l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, donc au départ, il y a surtout un certain nombre, il y a au total, il doit y avoir 140 cartes postales sur les bagnes de Nouvelle-Calédonie. Au début, le plus grand centre pénitentiaire ou bagne de Nouvelle-Calédonie, c'est l'île Nou. L'île Nou se trouvait en face de Nouméa. Et donc là, ce sont des vues à la fois de bâtiments, hein, avec des cellules, avec des surveillants militaires. Ça, c'est une église qui avait été construite tant qu'à la fin du 19e siècle, mais qui n'a jamais fonctionné comme église, mais qui a été transformée en magasin de vivres, et puis vers les années 1920, en cinéma.
Tout à côté de cette carte-ci, il y a une, on dirait une photo de famille.
Alors, c'est une photo de famille qui représente un groupe d'enfants avec leur maman, et ce sont vraisemblablement les enfants des survivants militaires avec leur épouse, Aline Nou, sous un très grand banyan. Un arbre géant qui pousse magnifiquement bien en Nouvelle-Calédonie.
Alors, sur ces cartes postales, on voit des bâtiments, mais on voit pas trop on voit des bâtiments ou les paysages, ouais. Mais on voit pas trop de personnages.
Ben, les personnages, ça va arriver un peu plus loin, hein, parce qu'il y a un peu plus loin des scènes de personnages. Ce sont des bagnards effectuant des corvées. Hein. Or, les principales corvées étaient des corvées de terrassement, et tous les gros travaux fin 19e, surtout l'arasement des principales buttes qui coupaient la ville de la mer à Nouméa. Tous ces travaux d'arasement des buttes ont été effectués par des bagnards. Là, vous voyez, c'est un des plus grands bourreaux du bagne, qui était bagnard lui-même, le bourreau Massé, donc devant une guillotine. Et puis la posant également en costume sombre et avec un haut de forme.
Oui, alors il faudra le décrire, ce bourreau Massé, parce qu'on dirait presque un Atoll France, assez âgé, avec une redingote, un pantalon gris, des chaussures qu'on n'aperçoit pas bien, un chapeau, style chapeau haut de forme sur la tête, et une barbe blanche rectangulaire. Et...
Souvent les bourreaux du bagne étaient des bagnards volontaires pour exercer leur triste œuvre. Ce bourreau Massé a exercé entre la fin 19e et le début du 20e siècle. Ouais. Donc c'est le plus connu. Il est reproduit en carte postale, mais il y a également de superbes photographies le concernant.
Si on veut revenir à des sujets un petit peu plus gais, il y a là deux autres cartes où l'on voit un kiosque à musique et puis la musique de la transportation avec numéro 13.
C'est
toute une série.
C'est une série de cartes postales. Édité par le Café Jouve en Nouvelle-Calédonie.
Le Café Jouve, Grand Prix de Paris 1900, seul exclusivement français, et le nec plus ultra des cafés, pur calédonien, 8 boulevard Bonne Nouvelle à Paris, goûtez-le par curiosité.
Oui,
et la publicité se mêlait à
la carte postale. Là, ces deux cartes représentent un peu la musique de la transportation, donc c'est tout un orchestre composé de bagnards qui sortait en dehors de l'enceinte fortifiée pour faire des représentations au centre de Nouméa. Et ce kiosque se trouve dans une superbe place, entourée de bagnans, mais surnommée à tort la place des cocotiers. Car il n'y a pas de cocotiers sur cette place, mais des bagnans.
Enfin, toutes ces cartes postales, en fin de compte, la carte postale est un objet de souvenir, c'est pour envoyer des messages. Elles ont été éditées dans quel but? Pour que les bagnards, les prisonniers, puissent envoyer des témoignages à leur famille?
Non, c'était plutôt davantage pour que les surveillants militaires envoient des témoignages de leur métier. Donc, généralement, ces cartes postales étaient envoyées par les agents de la pénitentiaire. Mais il faut savoir, je les ai dans un autre album, il faut savoir également que certains bagnards en réalisaient des cartes postales qui étaient des dessins aquarellés, le dessin donc au recto et au verso, l'inscription carte postale. Ouais. Et donc certaines cartes postales sont des œuvres de bagnards, elles sont rares, elles sont très recherchées, hein, car il s'agit de petites aquarelles effectuées par des bagnards assez habiles, et ayant un peu un certain goût artistique.
Vous les avez là?
Mais il me faut quelques secondes quand même pour atteindre ce classeur. J'espère les retrouver. J'espère retrouver ces documents assez rares et assez symboliques. Et là, vous voyez une série de trois cartes postales. Ce sont des dessins aquarellés représentant à la fois l'île royale, l'île du diable, où il y a eu d'ailleurs Dreyfus, hein, et puis l'île Saint-Joseph. Hein, et l'ensemble était appelé les îles du salut. Ouais. Alors cette carte postale a été réalisée par un bagnard, mais adressée vers 1915 en métropole par M. Abric, ABRIC, qui était un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire en fonction à l'île royale. une croix indique la demeure de ce fonctionnaire de la pénitentiaire.
C'est étonnant parce que tout y est jusque dans le moindre détail. On voit bien la végétation, on voit les plages, on voit les rochers, on voit les bâtiments, la petite église. Là, qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a des petites cloches.
Il y a une église à l'île Royale qui vient d'être restaurée. Cette église comprend de nombreuses peintures qui ont été réalisées par un bagnard.
C'est la même série.
C'est la même série, mais ce n'est pas le même bagnard qui a réalisé ces deux cartes postales.
Pourtant, les couleurs sont assez similaires. Oui.
Donc, ce sont deux autres cartes postales dessinées et aquarellées par un bagnard en 1917.
C'est d'un style assez naïf.
Généralement, oui, toutes les peintures de bagnard étaient assez naïves. Et puis, ces cartes représentent tous les bâtiments de la pénitentiaire, dont certains existent toujours après qu'une restauration les ait rajeunis.
Ces îles sont quand même assez petites. Hein.
Ah ben, ce sont de petites îles. Je veux dire, on peut y faire le tour en un quart d'heure, quoi. Hein.
Dans mon enfance, les histoires se déroulaient en cartes postales. Il y avait l'histoire du mariage, il y avait l'histoire comment fabriquer les confitures, comment voyager, etc. Et tout ça avec un nombre, une douzaine de cartes postales pour un thème. Et puis l'image m'a séduite, j'ai fait un moment une collection, puis un jour de grande générosité... J'ai donné mes deux albums, énorme album de cartes postales. J'avais bien mis de côté. Et alors, ça, comme je suis née dans un lieu qui est antifamilial, c'est-à-dire que mes parents étaient restaurateurs à Belleville, donc je ne sais pas ce que c'est que la vie de famille, je ne sais pas ce que c'est que la soupière sur la table, et je ne savais pas ce que c'était qu'une grand-mère qui fait des confitures. Alors, ce qui m'est resté le plus, c'est la série des confections des confitures et la série des fiançailles. Il y avait la jeune fille en robe printanière, qui était suivie par le jeune homme, puis après elle changeait de robe, et puis après il lui tenait la main, une autre carte postale, ils échangeaient le premier baiser, et puis après il y avait toute la famille qui était réunie, c'était le mariage, et puis la consommation du mariage, très discrète, dans un lit à baldaquin. Enfin, tout ça faisait que ça me faisait rêver.
Odette-Laure, les recettes de confiture, vous ne les avez pas essayées?
Ah, non, j'étais trop petite, là. Mais ça me faisait rêver. La grand-mère avec son bonnet en dentelle tuyautée, les petits-enfants autour, la grosse bassine de cuivre. On n'en mangeait presque rien qu'à regarder la carte postale.
André Fildier, racontez-moi un peu ce qu'il y a là-dedans.
Là, c'est des cartes en instance de classement. Ça, c'est politique. Ça, c'est Carlu, illustrateur de la guerre de 40. Carte humoristique, tout simplement. Carte publicitaire. Ça, c'est Kirchner, un grand illustrateur. Oui, il y a un petit peu de tout. Ça, c'est les cartes sur la danse. Je suis en train de préparer un article sur la L'œil Fuller, sur Isadora Duncan, sur toutes ces grandes danseuses, là, Isadora Duncan. Ça, c'est Maurice Chevalier jeune, et il est cassé à Christine.
En hommage à la femme et amitié au Christine.
Ah oui, il n'avait pas encore son style qui l'a rendu célèbre après. Là, vous avez encore Maurice Chevalier quand il avait 13 ans. Il a posé pour la carte postale à 13 ans.
Alors, la carte postale de Maurice Chevalier, je vais essayer de la décrypter. Tu as de la veine. Enfin, je me console en pensant que tu dois passer tes jours et la plus grande partie de tes nuits devant ton bureau à me trouver des répliques qui le feront tomber sous les fauteuils. Soigne-moi bien ma petite scène de sentiment. Il faut que je le rende... Bouche un coin. Signé Maurice Chevalier. Et elle est datée de 1921.
Oui.
Posée à la poste de la gare Paris-Saint-Lazare.
Paris-Saint-Lazare.
Ce que je ne vous ai pas encore dévoilé à propos d'André Fildier, c'est que nous sommes allés à sa rencontre dans la petite ville qu'il habite dans le Gâtinais, entre Gien et Montargis, Châtillon-Coligny, terre d'origine de la famille de l'amiral de Coligny, pays du physicien Henri Becquerel, et où Colette a vécu quelque temps avec ses parents avant de se fiancer avec l'écrivain Ouli. André Fildier, qui possède une immense collection de près de 400 000 cartes dans des thèmes très variés, a bien sûr réuni une complète série de cartes sur son village de Châtillon-Coligny et ouvre pour nous ses albums.
Ah, c'était l'époque où il y avait encore les foires aux veaux à Châtillon. Il y avait des foires où il y avait jusqu'à 5000 veaux. Ouais. Et en 1850, c'était un de mes grands-parents qui avait l'autorisation d'organiser cette foire. Alors ça, c'est la tour où Coligny s'est converti au protestantisme. Ça, c'est dans le château, c'est le tombeau de l'amiral de Coligny.
Alors, on posait sur les cartes postales.
Ah ben, c'était un événement, hein, parce que quand le photographe venait pour faire des cartes postales du village, les gens sortaient de leur boutique, tous les voisins venaient s'installer, et vous aviez, je crois, il y a peut-être 15 personnes sur la carte postale devant le magasin de M. Notin. Ah, c'était le Café Moreau, où il y a maintenant une poissonnerie. Là, c'est encore la rue principale. Et ça, c'était du temps, c'était Julien Damois, une épicerie. Il y a eu jusqu'à une trentaine d'épiceries dans Châtillon-Coligny au début du siècle. Il en existait encore une quinzaine, une vingtaine dans les années 45-50. Vous aviez le tambour de ville tout à l'heure, vous n'avez pas fait attention, monsieur Gobetti, qui était tambour de ville, qu'on voit sur une carte postale au début. Il était tambour de ville, mais c'est lui qui, tous les soirs, allait allumer les réverbères, qui à l'époque étaient des réverbères à gaz, et qui à 5 heures du matin, allait les éteindre.
Finalement, André Fildier, les albums de cartes postales, ce sont des albums d'images, ce sont des albums d'histoire, au double sens du terme.
Depuis 1900 jusqu'à nos jours, on peut retrouver l'histoire d'un pays, rue par rue, parce que toutes les rues ont été faites, tout a été représenté.
L'évolution de la carte postale est aussi liée à la photographie, indéniablement.
Oui, vous savez qu'elle était très au point en 1900. Hein. Même avant, hein, les clichés sur verre et tout étaient bien souvent bien meilleurs que ce qu'on fait à l'heure actuelle sur pellicule. C'était vraiment des photos de... Il y a eu des photographes d'art à l'époque. Hein.
La photographie, indissociable donc de l'évolution de la carte postale, m'offre une transition qui va nous faire rebondir hors de nos particularités hexagonales jusqu'à un pays où, en 1850, l'un des premiers photographes, Maxime Ducamp, accompagnant son ami Gustave Flaubert, effectua un long reportage photographique dont certains clichés devinrent plus tard cartes postales. Alors ce pays constitue le thème de la collection rassemblée par Anthony Tutungian, qui y vécut ses années d'enfance et qui dévoile quelques-uns des aspects de sa riche collection réunie en 50 albums.
À travers les cartes postales, j'ai pas seulement découvert l'Égypte de mon enfance qui était aux alentours des années fin 30, début 40, mettons jusqu'à 1950. Mais ça m'a permis de voir ce que ce pays était jusqu'à, mettons, 1890. Parce que les premières cartes postales émises en Égypte datent de 1890. Avant cela, il y avait des photographes qui, peu après la découverte de la photographie, ont été en Égypte. Ceux-là ont fait des photos qui, par la suite, à l'arrivée de la carte postale vers 1890 en Égypte, se sont transformés en fabricants de cartes postales, notamment Fiorello, l'Italien, les Guéquians, l'Arménien, les Allemands.
Si on ouvrait ce...
Oui, alors là, si vous voulez, on va commencer par le premier aspect, bien avant que arrivent les conquérants anglais en 1882, c'est l'époque des hôtels. Alors, vous avez, parmi ces hôtels, vous avez le Shepherd's. L'hôtel Shepherd's était le centre de la vie du Caire depuis 1850 jusqu'à ce que ça ait été brûlé sous même le roi Farouk en 1948. C'était un hôtel superbe. C'était un lieu de rencontre où des gens comme Lawrence d'Arabie, comme Gordon Pasha, fréquentaient. Avant d'aller, surtout les gens qui allaient à la découverte de l'Afrique, séjourner plusieurs mois parfois. Voilà le jardin du Shepherd's Hotel, en dessin.
Très coloré.
Très coloré, oui.
Est-ce que vous retrouvez sur ces cartes postales les couleurs réelles du lieu ?
Oui, de l'époque surtout. Actuellement, ces jardins ont pour la plupart disparu. On disait que si on se mettait sur les terrasses de l'hôtel Shepherd's, on voyait le monde entier passer. Et voilà deux exemples de touristes avant la guerre de 14. Et vous voyez, ils sont là et il y a des ânes avec des Égyptiens qui les prenaient pour se promener jusqu'aux pyramides. À l'époque, il n'y avait même pas une ligne de tramway jusqu'aux pyramides. Aujourd'hui, si vous allez au Caire, pour arriver aux pyramides, ça vous prend deux bonnes heures. Il y a une circulation extraordinaire. Et cette situation a continué jusqu'à à peu près 1950.
Les cartes postales, ce sont des images fixes, mais qui permettent peut-être plus de s'évader que devant des images télévisuelles ou cinématographiques. J'ai l'impression que vous avez commencé à me parler de l'Égypte sans avoir encore ouvert vos albums.
Oui, parce que si vous voulez, j'ai en mémoire ces cartes. En plus, j'ai en mémoire l'Égypte que j'ai connue jusqu'à l'âge de 19 ans, et puis l'Égypte que j'ai connue par la suite. Et j'ai fait une comparaison en étudiant ces cartes postales. J'ai fait une comparaison de mon époque, l'époque antérieure, l'époque de mon père, par exemple. Mais ça donne souvent une vue fixe et beaucoup de mouvements. J'ai un album qui représente le Nil d'un bout à l'autre,
oui.
Et ensuite l'effluent du Nil, le fameux delta, oui. des Grecs, et les bateaux qui passaient sur le Nil, des felouks, des pauvres, jusqu'au Dahabiya. C'était de très grands bateaux typiquement égyptiens. Dans ces bateaux, il y avait des tapis persans, c'était l'aristocratie d'origine musulmane. Chaque famille avait son Dahabiya, avec un personnel de jusqu'à 30 ou 40 à bord. Et ensuite, quand on examine ces cartes postales qui datent d'à peu près une centaine d'années...
Alors là, ce sont des photos avec des scènes de la vie quotidienne.
La vie quotidienne de l'Égypte, les costumes qui sont encore portés aujourd'hui, 100 ans après, qui ont très peu changé. Il y a encore 50% des petits métiers qui étaient exercés il y a 100 ans en Égypte qui sont toujours là.
Ces cartes postales, on a l'impression que ce sont des photos qui sont posées pour certaines.
Pour certaines, oui, mais la plupart sont naturelles. Par exemple, là, vous avez un groupe d'Égyptiens avec un chameau, des ânes, etc. C'est tout à fait naturel. Mmh. Un barbier qui s'était pris dans la rue. Des scènes des champs, de la culture des champs. Et puis, alors, ce qui est intéressant, ce sont les costumes. Parce que ces costumes ont, pour la plupart, disparu en Égypte. Vous avez des costumes de femmes nubiennes, de femmes coptes, de femmes de différentes souches d'Égypte. Et il faut dire que durant ma jeunesse, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Parce que je fréquentais pas la campagne. Et dans les grandes villes, on voyait pas les Égyptiennes habillées avec leurs habits traditionnels, avec leurs bijoux en or, un tout petit peu comme au Maroc.
Et est-ce qu'il y a des cartes postales qui représentent... Moi, je pense à... Au prix Nobel de littérature, Naguib Mahfouz, on voit bien avec lui les petits métiers, les petites rues du Caire. Est-ce que les cartes postales représentent aussi cet aspect-là ?
Oui. Le quartier qu'il a fréquenté a pas mal de cartes postales. C'était le vieux Caire. Les maisons typiquement égyptiennes, avec des gens de mouchards habillés, ont pratiquement disparu. Il existe aujourd'hui au Caire pas plus de 7 ou 8 maisons authentiques qui date du siècle dernier, avec la mouche arabiée, avec les patios égyptiens. Il y a des cartes postales de ce quartier.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, la carte postale ?
Qu'est-ce que ça représente ? Un souvenir de ma jeunesse. Surtout une étude de ce que était l'Égypte et ce que ce pays est devenu. On découvre toujours un détail... Surtout qu'il ne faut pas oublier que j'étais assez jeune quand j'ai quitté l'Égypte. Et puis je suis revenu et j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai commencé à connaître le peuple égyptien, chose que je n'avais pas connue durant ma jeunesse, puisqu'il n'y avait que des Européens. Il y avait ce monde cosmopolite qui m'intéresse toujours. Il y a tellement de contrastes. Depuis Alexandrie, la ville moderne, jusqu'à Louxor, l'Égypte ancienne... Le Caire, sa ville musulmane, qui date de l'arrivée des conquérants égyptiens. Il y a un musée qui est très peu connu au Caire, c'est le musée de l'art islamique, très peu visité, mais qui a des choses absolument extraordinaires. Et ça, j'ai découvert à travers les cartes postales.
Anthony Toutounjian a communiqué sa passion des cartes postales à son épouse Christine Toutounjian, qui s'est pris à son tour du plaisir à rechercher des cartes, mais d'un style tout différent que celle de son mari. Elle a regroupé des cartes représentant les grandes cocottes et les comédiennes du début du siècle, et puis ce qu'elle nous montre à présent, les cartes fantaisie, tissées de fils, agrémentées de plumes, de dentelles et de tissus.
Aussi, j'ai quelques cartes, indépendamment des cartes tissées. Soit j'ai des cartes en rhodoïde ou celluloïde. C'est une matière qui ne se fait plus à l'heure actuelle et qui avait demandé un travail manuel énorme. Et ça aussi, je cherche énormément, si vous voulez.
On les trouve avec de plus en plus de difficultés, du reste.
Le travail de ces cartes en rhodoïde, à l'heure actuelle... Elle ne pourra pas plus le refaire. Et puis les gens aussi demandent une patience énorme.
Ça n'est même pas.
Voilà. Alors, dans les cartes rhodoïdes, vous en avez qui sont peintes. Ce n'est pas du tout celle que je préfère. Je vais vous montrer, voilà. Parce qu'ici, vous avez des cartes qui sont mobiles. C'est-à-dire qui se mettent en relief. Voyez-vous ? On va les sortir. Comment vous montrer ça ? J'aurais dû les sortir. Ce sont des cartes travaillées, faites à la main, avec les rubans recollés, repeintes, que l'on envoyait pour certaines circonstances. On mettait un petit message à l'intérieur. Et tout était fait entièrement à la main.
Et on pouvait quand même écrire derrière.
Et on écrivait derrière, oui. On écrivait derrière. On les envoyait dans des cartes, des petites boîtes en carton. La poste les faisait parvenir ainsi. Alors, vous avez des reports de sujets en tissu, de l'herbe, Ça, c'est un petit peu l'imagination. Ici, j'ai de très belles choses. Enfin, je les trouve très belles. Je suis peut-être un peu prétentieuse. Mais vous avez, par exemple, l'éventail que vous pouvez ouvrir. Oui. Je suis obligée de les protéger parce qu'elles sont super fragiles. Et... Vous voyez ? Et tout était fait à la main et très légère. Toujours écrite.
On a envoyé ces cartes postales dans les grandes occasions.
Elles sont très émouvantes. C'est là,
elles sont très émouvantes. Elles sont très...
Au coin. Hein? Là, au coin.
Oui, celle-là. Ça, c'est un calendrier. C'était certainement pour la nouvelle année. Regardez le relief.
C'est un phare avec des oiseaux qui volent tout autour du phare. Alors, dimanche, lundi, mardi, mercredi, il y a tous les jours de la semaine. Et puis...
Une roue qui indiquait la date, le jour.
Qui est indépendante du phare et qui tourne, bien sûr.
Et alors, on les posait à même le bureau. En principe, ça devait tenir un petit peu. Là. Tout monté sur carton, voyez-vous. Voilà.
Ces premières cartes en rhodoïde étaient difficiles à travailler. Il fallait les travailler à chaud. Pour les dorer, c'était encore plus difficile. De toute façon, cette collection que mon épouse a date d'il y a 5 ou 6 ans parce qu'on les trouve absolument plus maintenant. Les Américains passent, les quelques marchands savent très bien qui sont les Américains qui achètent ça, et dès qu'ils ont quelque chose, ils avertissent.
Cette collection, très belle, fantaisiste, au charme un peu désuet, séduirait beaucoup, je crois, Odette Laure, qui, pour tirer un voile sur ces jeux de miroirs reflétant les univers de cartes postales, nous fait une confidence.
Dans le choix aussi des cartes postales, je ne vous ai pas dit que j'étais en premier chef sollicitée par des représentations de roses. Je vais faire un peu les bas bleus, là. Et vous citez Rilke, « Rose, ô volupté, de naître le sommeil de personne sous tant de paupières closes. » C'est beau. Petite fille, j'étais persuadée que j'étais née dans une rose. J'ai eu une sorte de passion, narcissique sans doute, pour les roses. Alors chaque fois que dans une carte postale il y a des fleurs, je de préférence vers celle et qui représente des roses. Mais je ne suis pas sûre de ne pas être née dans une rose, dont je n'aurais conservé d'ailleurs que les épines.
Est-ce qu'il n'y a pas un petit aspect un peu symbolique dans la carte postale ?
Oh, complètement ! Mais si, complètement ! À la fois dans la composition et à la fois dans l'imaginaire de celui qui la reçoit. Quand m'a-t-il écrit ou quand m'a-t-elle écrit cette carte? Dans quelles conditions? Et le rêve commence. C'est pas brutalement un papier jeté dans une boîte aux lettres ou renvoyé par le facteur. C'est tout un univers, un petit roman. C'est un univers inerte en mouvement, si je peux employer ce paradoxe. Renaît à chaque fois. Je dis inerte parce qu'il est dans mes cartes, elles sont dans une boîte, mais il suffit d'ouvrir la boîte et hop, tout repart.
Un univers de cartes postales. Avec la participation de Madame Odette Laure, André Fildier, François Robichon, Hubert Martinez, Michel Hébert, Gérard Sylvain, Christine et Anthony Toutoungian, Jean-Luc Bonifacio, un reportage de Thierry Aveline au mixage Philippe Destrebecq, réalisation Marie-André Arminou. Quelques livres à vous signaler. Images et traditions juives de Gérard Sylvain aux éditions CELIV, C-E-L-I-V. Michel Hébert, Le canton de Montebourg et la Manche en 1900 aux éditions Charles Corlet. Ça se trouve à Condé-sur-Noireau dans le Calvados. La série des Argus de la carte postale d'André Fildier, grand spécialiste, disponible donc cette série des Argus à la librairie Carte Fil au 4 boulevard Morland à Paris dans le 4e. On peut aussi consulter La carte postale, sa fonction sociale par Aline Ripper et Claude Frère aux presses universitaires de Lyon. Enfin, dernier ouvrage par François Robichon qui est paru cet automne, une monographie consacrée au dessinateur Poulbeau qui évidemment a été à l'origine de beaucoup de cartes postales. C'est aux éditions Houellebecq.
Cette émission a été diffusée la première fois le 5 mai 1995 sur France Culture.